Poilus Secure, épisode spécial, je suis accompagné de Davy. Comment vas-tu?
Très bien pour cet épisode spécial d'Halloween.
Très, très spécial. On va aborder le sujet de l'analyse de risque. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il est le véhicule de communication que je privilégie pour avancer mes choses. Mais en même temps, c'est un sujet qui quand même fait peur à bien des gens parce que pour l'ampleur, pour ce qu'il représente et tout ce que ça en est. Fait que je vais te laisser aborder ce sujet parce que je pense qu'il y a certains axes très intéressants que tu vas partager.
Eh oui, on vous a préparé un spooky épisode basé sur les risques, les menaces et l'analyse de risque. On le voit dans nos métiers, que ce soit la spécialité en sécurité ou en général. Si on doit être raisonnable dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on analyse le risque qui va avec. Vous achetez une maison, y a des risques. Vous conduisez un véhicule, il y a des risques. Alors, on pourrait dire voir les risques, c'est être pessimiste. Non, c'est être lucide. Alors, le pessimiste est persuadé que tout va arriver, que tout est irrémédiable et qu'on ne peut pas se faire autrement. La personne lucide, elle envisage tous les scénarios possibles et elle se dit alors comment on réagirait à tous ces scénarios-là. Et dans les scénarios possibles, faut qu'on aille voir les pires, voir les plus improbables. Donc, il existe, quand on fait, puisque nous, nos domaines, c'est plutôt autour de l'informatique, on doit aller voir avec les clients tous les risques possibles, imaginables, pour se préparer à la résilience. Alors, les risques, c'est perdre un fichier, perdre un serveur, perdre un élément réseau, perdre un bout de stockage. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste, l'impact peut être beaucoup plus gros que ça. Donc, sur la résilience et comment on se prépare à la perte d'un objet applicatif ou d'un composant applicatif, on sait faire facilement, on a des méthodes, la sauvegarde, la reprise de site à site, la haute disponibilité, la fault tolérance, tout ça c'est possible. Mais on oublie souvent que les risques, ils sont pas juste technologiques. Des fois, ils sont à côté de l'informatique. Par exemple, on en a un petit peu parlé dans les modules précédents qu'on a présentés, il y a les risques des individus. Il y a des personnes qui peuvent mal agir dans l'entreprise. Le risque, c'est pas juste un voleur, un méchant pirate avec son perroquet sur l'épaule, fait « je vais te voler tes données ». Le risque, on l'a dit, c'est par exemple un employé qui est pas content et qui se met à partager des fichiers de l'entreprise en public ou qui fait une erreur, qui les dépose sur un dépôt privé pas sécurisé ou qui met une clé en public. Tout ça, ce sont des risques. Mais vous allez me dire, tout ça, c'est des risques qu'on peut encore facilement concevoir. Il se trouve que quand on fait des études de risque, il faut qu'on aille au-delà de ça. Et là, on a besoin de gens qui font preuve d'imagination. Et c'est pour ça qu'on va aller dans des choses qui font un peu plus peur, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait un peu d'imagination et qu'on scénarise ce qui pourrait arriver. Parce qu'on est censé, dans nos métiers, être lucide sur la réalité du monde qui est autour de nous. Et le monde qui est autour de nous, c'est pas que des serveurs et des réseaux, c'est aussi des personnes dans des entreprises, dans un pays, avec de la politique, avec de l'économie, avec du climatologique. Enfin, il y a plein de choses qui participent. Et si demain vous montez une entreprise et vous ne vous souciez pas de ça, le jour où vous aurez un incendie de forêt, une inondation chez vous, parce que vous étiez mis à côté d'une rivière ou au milieu de la forêt, je suis désolé, mais ça fait partie du risque que vous avez pris et vous avez choisi de ne pas voir. Et dans les risques qu'on veut pas voir, il y en a des fois qui sont très critiques, et donc faut avoir beaucoup d'imagination pour aller les envisager. Je disais souvent il y a quelques années quand je faisais du cloud privé, je disais faut qu'on envisage quand on fait du PRA le cas où vous avez une météorite qui tombe sur votre data center le jour où il y a une inondation. Et c'est-à-dire être capable de se prémunir à la fois du dégât que l'eau représenterait, en même temps qu'une chute d'un matériau qui traverserait le plafond. J'ai dit, limite, faudrait même envisager le cas où c'est une navette spatiale, l'ISS qui tombe, voire, pourquoi pas, nos amis aliens qui descendent et qui se cassent la gueule sur votre data center pour pouvoir le préparer. Mais il faut qu'on ait l'imagination d'aller jusque-là, parce que dans un risque, il n'y a pas de risque totalement improbable. Il y a un scénario qui dit que ça peut arriver. Alors, si on fait le côté très terre-à-terre et un peu tragique, personne n'aurait pensé que des avions étaient capables de se prendre des tours du côté du World Trade Center, parce que la sécurité nationale du pays avait dit « c'est impossible qu'on détourne autant d'avions en même temps et qu'on fasse ça ». Pourtant, la réalité nous a rattrapés. Alors, ça, c'est le côté plus réaliste, un peu plus gloom que spooky. C'est une réalité. Donc, ça nous montre bien qu'il y a des scénarios qui sont pas censés se passer, mais qui arrivent quand même. Donc, quand on veut bâtir de la résilience, quand on veut être raisonnable, quand on veut être un consultant professionnel, on doit aussi ouvrir des portes qui font un peu peur parce que elles ont l'air peu probables, mais le peu probable, pour nous, quand on fait du risque, ça veut dire ben, probable quand même.
C'est ça existe. C'est la notion où ce risque-là existe. Et il faut être un peu Spielberg, dans le sens où il faut imaginer des choses qui on aurait peut-être écartées en temps normal. Tu parlais de certains scénarios, notamment les extraterrestres, des éléments comme ça. Il faut quand même en tenir compte. Pas parce que les extraterrestres vont arriver, mais parce qu'un événement qui ressemble à cet élément-là va se passer. Donc, il faut quand même se préparer, se prémunir contre ça et donc mettre les mesures en place et gérer le dit risque qu'on va scénariser comme ça.
Donc, et on le fait déjà dans les entreprises. En fait, la plupart des problématiques qu'on a dans nos outils techniques ou par exemple les tickets de support qu'on a, ce sont des choses qu'on sait prévoir à l'avance en fait. Et la meilleure façon qu'on puisse de les gérer ensuite pour nous, c'est de se préparer à qu'est-ce qu'on ferait quand ça va arriver, de l'anticiper, voire de l'automatiser pour répondre, pour avoir le moins d'impact possible. Vous n'empêcherez pas un problème d'arriver. Ce que vous voulez, c'est empêcher que cet problème ait un impact plus dérangeant ou en tout cas qu'il soit trop significatif. Et on peut avoir plein de pannes sans que ce soit significatif parce qu'on a justement préparé tout ça. Alors, ça demande de l'imagination. Et il faut comprendre que si on n'a pas cette imagination, le risque qui va arriver, c'est que l'événement, quand il arrive, peut être dévastateur. Chez les militaires, il y a une expression dans l'armée. On dit « on s'est fait surprendre, on a perdu ». On a perdu, ça veut dire qu'il y a des morts. Donc, dans l'armée, on dit « on peut pas se faire surprendre, en fait ». Donc, chez les militaires, on apprend, à l'école de guerre, par exemple, en France, on apprend à se préparer à des scénarios auxquels on n'a pas trop envie de penser, qui semblent absurdes ou presque inconcevables. Et il se trouve qu'il y a un exercice fait par l'armée française depuis le ministère de la Défense depuis plusieurs années, qui est le Red Team. Et le Red Team exercice de l'armée française, c'est des livres qui sortent tous les ans, où ils s'associent à des auteurs reconnus de science-fiction, d'anticipation, un peu comme ferait la série Black Mirror, pour dire « on en est là aujourd'hui ». Et si on essayait d'extrapoler les chemins possibles de ces sujets-là? Pour ceux et celles qui ont vu Black Mirror, la série Black Mirror, elle se caractérise par le côté crédible des points de départ des scénarios qui sont des évolutions de choses qu'on a aujourd'hui et qui posent des questions tout à fait raisonnables, rationnelles sur l'évolution de ces scénarios-là. Donc on le voit par exemple avec l'avènement des drones. Comment on pourrait manipuler des flottes de drones pour arriver à faire des trucs qu'on pouvait pas faire avant. Les drones, si vous en avez deux ou trois qui volent, ça va. Si vous en emmenez 400 d'un seul coup qui arrivent sur une zone pour la bombarder, ça fait des résultats assez catastrophiques.
Oui, absolument. Puis les drones est un bel exemple parce que la guerre en Ukraine n'était pas de ce côté-là et on est vraiment de l'autre côté. Là.
C'est exactement le scénario où on voit que ce qu'on avait formalisé comme possible menace terroriste d'utiliser les drones pour larguer des bombes est mis en place de façon stratégique et technique sur le terrain depuis plus d'un an en Ukraine, où les drones à usage même civil sont détournés pour le bien, entre guillemets, d'efforts de guerre de nos amis ukrainiens, pour pouvoir bombarder les Russes avec des moyens qui sont beaucoup plus difficiles à gérer pour les autres, parce que n'ayant pas anticipé que ce genre de véhicule de cette taille, de ce type-là, les attaque, ils n'ont pas les contre-mesures. Donc on voit l'effet, typiquement, c'est qu'il y a eu dans les premiers... Alors maintenant, ils commencent à avoir des contre-mesures entre eux, parce qu'ils ont pris de l'habitude, et les humains qui sont derrière et le commandement a évidemment analysé le type de menace, les méthodes et les contre-mesures à mettre en place. Mais dans les premiers mois, ils ont fait l'usage de drones civils, pour larguer des explosifs ou faire de la reconnaissance, qui sont les deux usages évidemment très intéressants. On est sur des véhicules très légers, très discrets, qui peuvent aller très vite, qui ont peu de valeur. Donc les faire et les produire et les détruire ne posent pas trop de soucis. Les drones militaires les plus bas, on est sur du 5-10 000 euros pièce, hein, alors que du civil, on est sur du 100 euros. Donc c'est pas tout la même chose. Donc il est facile d'en envoyer des flottes, de répéter, d'épuiser un terrain, par l'effort justement de répétition, là où des munitions plus grosses, de plus gros calibre, sont plus difficiles à obtenir. Et puis, je rappelle que les usages militaires des armes sont déclarés, elles sont connues, il y a des modes... l'ennemi est susceptible de connaître ce qu'on utilise et ses failles, alors que quand on utilise des moyens dérivés civiques, c'est plus difficile de s'y préparer parce qu'on ne connaît pas forcément l'équipement. Vous voyez ? Donc on voit typiquement, là, c'est l'usage où on en aurait parlé il y a 5 ans, on aurait dit c'est une hypothèse que quelqu'un fasse ça. Et là, aujourd'hui, pour tout le monde, c'est acté, c'est du passé, c'est déjà dans la culture. Et il est probable qu'on ait d'autres conflits dans le monde qui réutilisent la même méthode demain, parce qu'en fait, c'est devenu un acquis. Et donc, dans les exercices de la Red Team, effectivement, il y a un certain nombre de scénarios comme ça, où on envisage de voir dans le passé ce qui s'est passé et comment on pourrait faire évoluer ces scénarios. Il y a des scénarios, par exemple, qui sont basés sur le fait que on aura de plus en plus de mal à stopper les menaces aériennes. Et donc, il faudra développer, comme on a en Israël, ce qu'ils appellent le dôme de fer, c'est-à-dire des endroits dans les pays où, si l'instabilité augmente, ben des endroits où on va faire un effort de protection sur des grandes villes qui seront protégées par une bulle, pas forcément physique, mais avec un réseau de protection. Et ça veut dire qu'on aura des zones entre les villes qui, elles, seront beaucoup moins protégées. Donc, on a un État qui déclare déjà qu'il y aura, sera difficile de maintenir l'effort de protection de la même façon qu'on le fait aujourd'hui sur nos pays en paix. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est intéressant de voir que on pousse des scénarios qui sont fictifs, on pourrait se dire, mais avec des bases tout à fait rationnelles. Et l'objectif, quand on fait l'analyse de risque, c'est d'aller voir justement quel est le potentiel de ces menaces-là, de la réalité de ces menaces-là, et de pas être surpris quand ça arrive. C'est-à-dire, ça, on avait comptabilisé que c'est faisable. Et on le connaît, on le voit, il y a plein de moyens technologiques qu'on utilise aujourd'hui qui nous semblent tout à fait normaux, où il y a 10 ou 20 ans, ça nous semblait être de la pure science-fiction, on les a aujourd'hui. Et avec inversement, on a aussi une inspiration de la science-fiction sur la modernité. Si vous allez interroger des gens qui travaillent à la NASA ou sur le programme Ariane en France, il y a des fans de Star Trek et de Star Wars partout là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit l'influence sur la technologie, sur les moyens mis en œuvre ou les idées de la science-fiction qui nous amène, tiens, une idée qui paraît... Alors, dans la science-fiction, il n'y a pas que des idées farfelues. Il y a des science-fictions où, évidemment, on est plus près de du magique que de la science-fiction elle-même. Mais il y a des tenants de la science-fiction qui sont plus réalistes. On a l'anticipation, on a de la science-fiction plutôt plus réaliste qui peut avoir lieu, qui nous donne des idées de ce qu'on pourrait faire ou de ce qu'on pourrait être amené à faire. Alors non, on pourra pas se téléporter. Je rappelle qu'au concept de téléportation, même en physique quantique, il peut pas être possible. Mais l'équivalent d'une téléportation en physique quantique, ce serait de recopier l'état de vos atomes et de vos molécules pour les recopier à un autre endroit. Et là, en physique quantique, ça marche. Ça existerait par l'intrication, on pourrait retrouver ça. Mais on ne transportera pas. Est-ce qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière? Non, mais proche, oui. Alors, on a le problème de la pousser pour y arriver. Mais je rappelle qu'il y a, s'il y en a qui suivent un peu la science, qui lisent Science et Vie ou Epsilon, par exemple, on a des dossiers fréquemment dessus sur les nouveaux moteurs, les révolutions de moteurs qu'on souhaite trouver pour essayer d'accélérer le plus possible, pour voir à quelle vitesse on pourrait aller et voir si le voyage interstellaire serait possible. Et c'est inspiré de la fameuse warp speed de Star Trek et ou light speed de Star Wars.
Ouais, ils sont très intéressants. Puis ça nous amène dans d'autres zones. Mais comme tu dis, justement, l'état de l'art pour la propulsion ne nous permet pas de l'atteindre. Mais on y travaille très fort à ce genre de réflexion-là. C'est donc ça, l'effet inspirant dans le cas de Star Trek et Star Wars pour nous amener nos réflexions et nous amener dans ces eaux-là, dans ces rêves-là qui peut-être vont être accessibles un jour, mais qui ne pour le moment. D'ailleurs, quand tu penses à la téléportation, l'idée de me téléporter m'intéresse peu au sens où tu te fais recréer, tu te fais détruire et recréer un autre endroit. L'idée de que je me fasse détruire ne m'inspire pas confiance au système.
Alors, pour le coup, je te remercie parce que ça me fait une transition pour ce que je voulais parler. On a un bon exemple de la téléportation qui passe mal. Ça s'appelle La Mouche, The Fly, de David Cronenberg. Et on voit ce qui se passe quand on est démoléculisé, refait de l'autre côté, et qu'on est mélangé avec une mouche, ça se passe pas très bien. Et comme je dis, ça donne pas tellement envie. Donc, on a aussi, dans les scénarios de science-fiction, des scénarios de probabilité de choses qui sont en train de nous toucher et qui peuvent nous servir d'alerte. Un certain James Cameron a réalisé un film dans les années 80 où une IA reprend le contrôle de la planète et essaye de tuer l'humanité. Il envoie même des robots dans le passé. Ça s'appelle Terminator. Et Terminator, je suis désolé, mais le sujet des IA qu'on a fait récemment, c'est une interrogation même dans les gens qui font des IA aujourd'hui. Je rappelle qu'une IA n'a pas d'intelligence, elle fait semblant d'être humaine. J'ai lu cette semaine dans un dossier dans Epsilon des IA qui sont prises en train de mentir, mais littéralement, c'est-à-dire pas qu'ils font des erreurs, mais quand on regarde la logique de la réflexion de l'IA, Elle sait quelle est la vraie réponse et sciemment elle utilise une mauvaise réponse avec l'objectif de tromper l'adversaire. L'une d'entre elles, c'est pour tromper un contrôle gouvernemental, hein, littéralement le scénario qu'ils ont fait. Donc on voit que les IA sont prêtes à copier l'humain, même en ce qu'il a de plus vil, sachant que ces IA ne sont pas programmées pour ça initialement. C'est des IA qu'on a programmées pour, selon les algorithmes, être fiables et honnêtes. Et qu'on s'aperçoit qu'elles sont en train de tricher. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que on a souvent, nous, un regard assez critique sur ces sujets-là, parce qu'on a justement cette habitude d'aller regarder le pire des choses, en espérant souvent le meilleur, on préférerait. Mais parce que quand on met en place des outils, quand on met en place des solutions, si on ne se pose pas la question du pire, le jour où ça arrive, on ne peut être que surpris. Et le problème, c'est qu'on a des responsabilités. Donc on doit se préparer à ce pire, on doit l'envisager pour voir comment on pourrait mettre des contre-mesures. Quand Isaac Asimov écrit Les lois de la robotique, dans un livre, il prévoit déjà le pire. Il prévoit des lois qui aujourd'hui on n'a pas dans les IA. C'est con, elles existent déjà. Je rappelle que les lois de la robotique, hein, c'est qu'un robot ne peut pas faire du mal à un humain, un robot doit faire tout ce qu'il peut pour éviter qu'un humain subisse du mal, et un robot doit, alors c'est éviter toute situation qui engendrerait du mal à un humain. D'accord ? Donc ces scénarios-là, on les a même pas aujourd'hui dans une IA. On pourrait avoir une IA qui pourrait prendre des décisions comme tirer avec une arme à feu sur des humains. Et on a des scénarios où ça commence à arriver. Le problème est de la responsabilité. Et si l'IA est capable d'apprendre encore plus, de devenir soi-disant humain, on voit bien que l'illusion de la sentir humaine nous amène à avoir les mêmes biais qu'avec un être humain en qui on aurait trop confiance. Le souci ici, c'est qu'on est sur un automate complètement dénué de morale, d'éthique, d'affect. C'est pour ça qu'une IA ne sera jamais un être humain. Elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas d'affect, elle n'a pas d'éthique, elle ne se pose pas la question. Elle ne fait pas non plus d'anthropomorphie avec un humain, puisqu'elle n'est pas humaine. Elle ne fait que copier les réponses qu'on lui donne, finalement. Et là, on voit bien que ça projette, là aussi. Et dans Terminator, le scénario qui s'est produit, c'est l'humanité est considérée comme dangereuse pour elle-même. L'IA, c'est le scénario d'origine. L'IA a décidé de détruire l'humanité, puisque l'humain est dangereux pour lui-même. C'est pas la première fois qu'on a ce scénario-là. On l'a déjà dit, une IA, elle apprend de ce qu'elle apprend des humains. Elle apprend où ? Avec Internet. Ce scénario-là, il est disponible sur Internet dans plein de bouquins. Donc, nos IA sont en train d'apprendre qu'il est probable que l'humain dise que le scénario possible, c'est qu'une IA nous détruise. Donc, on est en train d'apprendre à nos IA à nous détruire. C'est déjà prévu. Là encore, on peut dire tout ça, c'est de la science-fiction, ce que tu dis. Oui, sauf que quand on regarde les évolutions, je suis désolé, mais quand le scénario de science-fiction et la réalité continuent à s'aligner, j'avoue que moi, c'est inquiétant. Moi, ça me fait vraiment peur.
Non, il y a effectivement raison. Puis, on de plus en plus, puis là, même avec les, si on parle des évolutions de cette semaine qui ont eu lieu sur OpenAI, justement, on se rapproche de ces notions-là. Puis encore là, comme tu le mentionnes, l'AI n'a pas de réflexion, mais on l'entraîne avec nos biais humains. Par rapport à ça, donc on est en train de pousser dans la machine ce qu'on veut pas que la machine soit parce que on y balance nos biens, toutes nos histoires, toute notre fiction, toute notre science-fiction d'ailleurs, qui nous amène puis qui va finir par réagir. Puis j'avais assisté à une conférence en dernier qui disait justement le problème quand on demande à l'IA de générer une histoire, mais elle va générer l'histoire comme on a toujours écrit des histoires avec les humains. Avec la même, dans le même ordre, dans la même façon, avec les mêmes rebondissements, parce que c'est sur ça qu'elle apprend. Elle apprend sur nous. Donc, sur notre façon de faire, sur nos choses. Elle présente un risque à terme de dévier, comme l'humain peut dévier, mais froidement, pas avec intention.
Pas avec intention ou avec l'ordre caché dans ces lignes de code de prioriser une valeur, une rentabilité plus que le créateur humain. Là encore, on peut retourner dans le cinéma, Ridley Scott, Alien. Le premier Alien, c'est le robot qui les sacrifie, puisque c'est lui qui ouvre le sas, le premier, qui fait rentrer c'est John Hurt qui a le facehugger qui est sur le visage. Ripley dit non, il rentre pas à la quarantaine, et c'est le robot qui décide d'activer. avec le capitaine et qu'il est non, c'est le robot qui active et qui les laisse rentrer, qui laisse rentrer la créature. Et quand on regarde, quand elle défonce le droïde et qu'elle lui demande pourquoi, il dit c'est sa prérogative. La créature trouvée est plus intéressante, plus valorisée que l'équipe humaine du Nostromo. Et donc, sacrifice de l'équipe possible pour récupérer. Et ça reste leur directive. Donc là, on a typiquement une IA qui dit, moi, on m'a demandé une commande. Priorité, c'est ça. C'est la première ligne. Je la valide. L'ASF en est blindé. On pourrait, il y a Alien. On pourrait reprendre 2001, l'Odyssée de l'espace, avec Hal. Hal, qui est une petite blague qui est IBM, hein, avec une lettre de décalage, avec l'ordinateur, pareil, qui décide d'appliquer les règles qui lui ont été données au détriment des humains et de les sacrifier là aussi. J'avais donné un autre exemple, donc je ne veux pas spoiler. Alors attention, spoiler, pour le coup, je vais parler du film, vous pouvez couper, vous reviendrez dans 5 minutes. Ex Machina, où on a un personnage qui rencontre un robot humanoïde qui est enfermé dans une cage, et qui, l'humain ne sait pas trop pourquoi son créateur l'a mis dans une cage. Il entretient une relation avec ce robot. Le robot qui est féminisé a tendance à le séduire. Il y a une relation qui se crée. Il arrive à croire à l'humanité de ce robot. Et là, spoiler, attention, vous coupez ici, vous allez voir d'ici une minute ou deux. Et le robot, quand il ouvre la porte, finit par le défoncer, il se barrait. C'est-à-dire qu'en fait, elle a joué son programme et c'est pour ça qu'elle était enfermée, parce qu'en fait, il était en train de l'étudier et s'apercevoir que l'apparence d'humanité, de compassion, d'émotion, n'a été que la lecture d'un algorithme l'amenant à son objectif, c'est sortir pour détruire l'humain, y compris en le séduisant, en l'amenant dans un état de compassion, de faiblesse qu'il peut utiliser à son encontre.
Oui, absolument. C'est terrible. Puis on le voit à l'heure actuelle avec même le AI peu sophistiqué qu'on a entre les mains, que ce problème-là se positionne. Autant le AI nous renvoie des informations, autant on a cette croyance que l'AI est là et a la vérité et veut nous aider. Puis ça, moi, je trouve ça très particulier, mais c'est très ancré dans l'humain d'être faible face à l'intelligence artificielle.
Alors, ça nous fait pas mal de scénarios. On a des scénarios qu'on a vus d'apocalypse, de fin du monde aussi, pour envisager tous ces scénarios-là. Et quand on réfléchit au pire, du pire, du pire, eh bien, il y a un scénario auquel nos gouvernements adhèrent pour se préparer au pire. Donc, on pourrait dire le pire, c'est un incendie. Ouais, c'est pas mal. Le pire, c'est une guerre. C'est quand même pas mal critique. Ouais, mais la pandémie, c'était pas mal aussi comme pire. Ouais. Alors, comment on réunit l'ensemble? Eh bien, il y a un scénario qui est utilisé aujourd'hui par les ministères de la Défense de plein de pays, qui est devenu un référentiel parce qu'on estime que c'est la pire de pire de pire de toutes les situations. Et à votre grande surprise, c'est le scénario de l'attaque des zombies. Alors moi, j'adore ce scénario. Je suis un petit peu un zombiophile, j'en bouffe depuis des années. Et le scénario zombie décrit la situation la pire possible. Donc, quand on est une entreprise ou un gouvernement et qu'on veut se préparer au pire du pire, ou si vous êtes un peu survivaliste et vous dites « à quoi faudrait que je me prépare ?» Bah, vous regardez Walking Dead, vous regardez Last of Us, vous regardez Zed Nation, si vous voulez. Mais vous regardez ces scénarios-là et vous regardez ce qui se passe. Pourquoi ? Le scénario zombie, c'est une maladie déjà qui se propage. Okay. Donc déjà, c'est chiant à gérer. On l'a vu avec la pandémie, et le Covid n'était pas méchant. Hein. Dites-vous bien qu'en termes de maladie, le Covid, c'est pas la plus méchante qu'on puisse avoir. Si vous pétez de la peste noire à côté, c'est radical. Donc, c'est une maladie. Donc déjà, il y a le risque pandémique. Pandémique, c'est-à-dire une maladie à très très grande échelle. C'est mondial. Okay. Ce scénario-là, la propagation, il est vu, par exemple, par l'interconnexion de tous les pays. C'est comme ça que dans tous les scénarios de zombies aujourd'hui qu'on a dans les bouquins, le mal se propage en très peu de temps, parce qu'en fait, une morsure contamine la personne, qui la laisse encore vivante suffisamment longtemps pour se déplacer, prendre un avion, aller dans un autre pays, et puis ensuite contaminer les autres. On a le taux de contamination par individu, donc ça c'est le taux de propagation pour un virus. Ça dépend ensuite donc de la virulence du virus en lui-même et de l'action. On a un virus qui empêche les humains de rester humains, donc d'avoir un contact avec eux. Donc, on n'a pas, c'est pas qu'une population malade qu'on peut mettre en quarantaine. Quelqu'un atteint par le virus une fois qu'il est contaminé, s'il meurt et qu'il passe à l'état de zombie, sinon c'est un infecté, attention, petite distinction, 28 jours plus tard n'est pas un film de zombie, c'est un film d'infecté, pour les aficionados, c'est-à-dire des gens qui sont infectés par un mal mais qui mourront quand même. Les zombies sont là pour rester très longtemps, donc on a un truc qui perdure dans le temps très longtemps. On a une menace qu'on peut pas raisonner, qui va se propager très vite, qui va bloquer donc littéralement l'humanité. Vous l'avez vu avec le Covid. Il suffisait de dire aux gens d'arrêter d'aller chez eux pour que le pays s'arrête. Et le monde a respiré comme ça en suspension pendant plusieurs semaines. Vous avez eu l'impact que ça a juste en demandant aux gens de rester chez eux. Donc imaginez maintenant que derrière votre porte, il y a un danger mortel. Donc là, ça vous donne un ordre d'effet que ça pourra avoir. Ça veut dire que la civilisation telle qu'on la connaît s'arrête. Ça veut dire que les transports routiers s'arrêtent, ça veut dire que les systèmes bancaires s'arrêtent. En fait, vous pouvez pas demander aux gens d'aller se déplacer pour aller alimenter les supermarchés s'ils risquent de mourir sur le trajet. Là, en l'occurrence, de façon très virulente. Ça veut dire qu'en plus, les individus doivent se protéger en se renfermant chez eux. Est-ce que vous avez les moyens de survivre chez vous? Même remarque. Deuxième élément, un autre élément qu'on va prendre en compte. Quelle est votre capacité de survie dans un lieu clos, qui est votre maison? Pendant combien de temps vous pouvez tenir sans être réalimenté? Ça, c'est des choses qui remettent en cause, par exemple, toutes les structures de grandes villes. Si vous vivez au milieu de la campagne, et on le voit dans ces scénarios-là, les gens qui sont au milieu de la campagne ont beaucoup plus de chances de survie. Si vous vivez dans une grande ville, vous avez des scénarios où vous mourrez très vite. Alors, il y a un bouquin, moi, que j'adore, qui n'est pas un bouquin de zombies, mais qui est un bouquin sur une fin du monde possible, qui s'appelle 20 Seconds After. Je vais vous le retrouver. Faudra que je retrouve le titre, je vous le redonne. Enfin, l'auteur, je crois que c'est Reichter, l'auteur. C'est un bouquin qui a été fait par un universitaire nord-américain qui s'associe à des militaires, qui s'associe à d'autres profs d'une université dans plein de domaines pour dire qu'est-ce qui se passerait si demain on prenait une EMP. Alors, EMP, c'est une bombe électromagnétique. Vous allez me dire, oui, mais il faut la faire. Ah non, une bombe nucléaire en haute atmosphère, c'est une EMP. Donc, le risque nucléaire, par exemple, quand on vous dit la Corée du Nord a la bombe nucléaire, ça nous ennuie, c'est pas parce qu'on a peur qu'il la fasse tomber sur une ville, c'est parce qu'on a peur qu'il la fasse exploser à 10 ou 15 kilomètres en dessus de la ville, dans la haute atmosphère, et que ça génère un orage électromagnétique. Un orage électromagnétique, ça grippe tous les appareils électriques et électroniques sur place. Tous. Donc, imaginez que d'un seul coup, tout ce que vous avez qui s'appuie sur de l'électricité ne fonctionne plus et n'est pas réparable. Y compris vos compteurs, y compris les circuits qui vont avec. Tout ce que vous avez d'électroménager, d'électrique chez vous est mort, littéralement. Tout ce qui est connecté à un réseau est mort. Le scénario qu'il décrit, lui, il le fait dérouler à la campagne. La ville part en vrille en 48 heures, 72 heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus l'électricité, vous êtes sûr que les effets vont être radicaux autour de vous. Si on va aller du côté très ténébreux, 48 heures de plus d'électricité dans un hôpital, c'est l'hécatombe. Vous tuez tous les gens. Vous avez tous ceux qui sont sous traitement médicaux intense ou sous équipement qui sont morts. Tous les gens qui sont, eux, sur traitement, par exemple, comme l'insuline, etc., vous aurez plus de frigo pour conserver. Donc là, vous avez quelques jours. Vous allez avoir aussi une perte de solidarité dans les sociétés. Puisque tant que on a un espoir de s'en sortir, les gens arrivent, on le voit, hein, certains auteurs l'ont mis en place. Hein. Tant que vous avez une idée que c'est temporaire, on arrive à avoir de la solidarité. Quand les gens comprennent que c'est définitif et qu'il n'y a plus rien à sauver, ça devient très vite chacun pour soi. Et donc on voit que la solidarité a beaucoup de mal à s'organiser, dans les grandes villes encore plus. Dans les grandes villes, c'est très en tension, puisqu'on est les uns sur les autres. S'il n'y a plus d'alimentation en électricité ni en nourriture, ça tombe tout très vite à la barbarie. Et donc, ces livres-là ont tout à fait étudié la possibilité que ça arrive et l'effet que ça aurait sur les sociétés qui verrait assez dramatique. Dans le bouquin de Richter, d'ailleurs, il décrit que quand les campagnes arrivent à peu près à s'en sortir avec un taux de mort, on va dire, d'un tiers et à reconstituer un truc à peu près stable avant l'hiver, ils se font attaquer quelques mois après par des hordes de survivants complètement malades qui reviennent des villes qui, eux, n'ont pas pu s'organiser mais qui sont en mode pure barbarie, quoi. Et donc, ils sont obligés de se battre contre ces hordes-là. C'est ce qu'on voit aussi dans les scénarios de zombies, où les survivants deviennent une menace pour eux-mêmes. Donc, on est sur un scénario ultra catastrophique. Bien sûr que je suis pas convaincu que les zombies arrivent un jour, mais le Covid nous a montré qu'une pandémie était possible. Nos spécialistes de la virologie mondiale, vos biologistes, vous diraient qu'on n'a pas trouvé tous les virus et qu'il y en a chez, qui existent déjà, qui sont dans des labos, qui peuvent être extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, on pourrait avoir à se préparer à ce scénario-là. Ça veut dire que pour un individu, une entreprise ou une société en tant que pays, une nation, c'est un scénario tout à fait visible. Et si vous vous préparez à survivre à ça, c'est-à-dire à vous cloisonner, à avoir les moyens de subsistance, à vous protéger, à avoir des moyens de communication, si demain il y a une inondation chez vous, ces moyens sont applicables. Si demain il y a un feu de forêt autour de chez vous et vous voulez vous protéger, vous en allez, vous savez comment partir. Si demain il y a un tremblement de terre et vous êtes pris au piège ou qu'il y a un début de guerre civile ou une instabilité politique à côté de chez vous, c'est des scénarios qui fonctionnent. Et donc sachez que ce sont des scénarios qui sont utilisés, en fait, on le déroule avec les forces militaires, avec les ministères, pour dire, voilà, si ça arrivait à cette ampleur-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise pour essayer de tenir? Quand on fait des scénarios d'attaque, en général, tout court, on part pas du principe que ça n'arrivera pas et qu'on sera pas impacté. On essaie toujours de dire comment on fait pour le contenir, pour le canaliser et essayer de maintenir un semblant d'organisation. C'est à ça que ça sert, en fait, ce genre de scénario.
Ouais, la poursuite des choses, puis le même si ça peut sembler farfelu, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça farfelu d'aborder sous le volet zombie, celui-ci, comme tu l'as bien mentionné, est complet. C'est-à-dire que ces scénarios-là présentent plusieurs facettes dans un même scénario dans lequel il faut se préparer, même si on va juste affronter une des facettes du scénario. La COVID est un bel exemple, qui est une facette du scénario, puis nous a mis à bien des égards à l'épreuve, parce que il y a eu le problème de papier toilette, notamment, qui est apparu. Puis ce qui est très banal, somme toute, mais dans les villes, c'est devenu complètement fou, et on parle de gens qui se deviennent un peu barbares et survivalistes, juste pour du papier toilette. On parle pas de nourriture, de choses à survie, de l'eau. Là, on parle vraiment juste ça. A été un symbole fort pour montrer à quel point on tombe rapidement dans le chaos. Et quand on n'est pas prêt, donc on n'a pas de papier de toilette, ben on s'expose à des problèmes qui peuvent être là. Et puis ça, c'est que pour la COVID, c'est une facette du scénario zombie, parce qu'il y a beaucoup de facettes au zéro. Puis ça qui est intéressant du scénario zombie, parce que toutes ces facettes peuvent nous préparer à différents éléments qui vont probablement arriver dans les prochaines années, parce que, bon, tu mentionnais qu'il va y avoir d'autres virus qui vont nous atteindre, on va avoir d'autres confinements qui vont nous affecter, parce qu'on va devoir limiter la propagation du dit virus, qui vont probablement être plus virulents que la COVID, parce que la COVID, c'est vraiment tiède en termes de si on compare aux zombies eux-mêmes, c'est vraiment tiède. Et d'autres éléments comme ça, là, tu parlais de l'eau dans nos centres de données. On a eu au Québec, d'ailleurs, une inondation dans une station de télévision qui a été inondée, et à ce stade-ci, ne sont pas encore retour en pleine production. Ils sont juste en mode dégradé. Ils ont réussi, malgré tout, à maintenir le mode dégradé, mais pas sur une longue période. Et c'est justement là où tu mentionnes aussi. Le premier 40 heures, c'est bien, mais après, si ça se poursuit, dans le cas de la station de radiation de télévision au Québec, ben ça s'est poursuivi, dépassé le 48 heures qu'il y avait initialement planifié. Donc, à ce moment-là, ça leur a demandé d'imagination, qui ont réussi, par ailleurs, dans leur cas, à maintenir la séquence. Mais s'il n'avait pas été préparé, ça aurait été beaucoup plus d'improvisation, ça aurait été beaucoup plus difficile de maintenir. Puis on parle juste d'une station de télévision, là, rien de grave. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de... Mais encore là, il faut prendre cette facette-là du scénario zombie pour être prêt.
Et on le voit dans plusieurs ouvrages, il montre, tu l'as très bien redit ici et mis en avant, ça montre la fragilité de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on est tellement en paix, on est tellement bien depuis des années dans la consommation, parce qu'en fait, depuis que la Seconde Guerre mondiale s'est finie, ça a calmé beaucoup de choses dans le monde, que pour beaucoup de pays, on vit dans une situation de paix. Et cette situation de paix nous fait oublier à quel point on peut être fragile et que nos équilibres sociaux sont fragiles. Et donc, ce que tu dis, hein, le papier toilette qui manque, qui fait que les gens deviennent violents entre eux, parce qu'en fait, d'un seul coup, l'individualisme se réveille. Moi aussi, j'ai besoin et il n'y a pas assez. Le souci de ça, alors, on le voit dans ces scénarios-là, des fois, enfin souvent, les pays qui s'en sortent le mieux, ce sont souvent les pays pauvres. Parce qu'ils sont déjà dans une situation d'urgence. Ils sont déjà à vivre avec très peu. Donc, eux, ils sont déjà adaptés, en tout cas, à la pratique de la vie courante dans une situation de stress. ce que nous ne sommes pas capables de faire. C'est pour ça aussi qu'on pourrait, je vais faire un pont théorique libre d'y adhérer ou non, c'est pour ça qu'on voit le nationalisme reprendre de l'avant dans les pays dits civilisés, c'est parce qu'ils sont en train d'avoir peur de perdre des choses, et donc dans ce cas-là, on se réfugie dans ce qu'il y a de plus... dans l'approche la plus peureuse du monde, qu'est le nationalisme et le racisme. Et en France, on a un scénario qui va arriver. Paris a des parties qui est inondable. Et le climat fait qu'en France, on est censé avoir une crue, donc une inondation, donc une montée de la Seine très haute, tous les 100 ans. Sauf que la dernière, elle a eu lieu il y a plus de 100 ans. Et on l'attend. On sait qu'elle va arriver. Et aujourd'hui, toutes les institutions qui sont sur Paris s'y préparent. Et les transports parisiens, la RATP, a un plan d'action pour isoler les stations en train, etc., réparer. Ils estiment qu'il leur faudra 4 à 5 ans après l'événement pour repartir au même niveau qu'aujourd'hui. En étant prêt, en sachant que ça va arriver, en s'y préparant tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on disait, et si ça perdure, et les effets. Donc on est sur des choses qui ont un bouleversement, qui vont amener du bouleversement, qui aura des impacts durables, qui eux-mêmes auront d'autres effets. Ça veut dire qu'on met en place des solutions, j'avais vu ça dans le métro new-yorkais, ils ont des ballons gonflables pour isoler carrément des stations de métro en gonflant un truc énorme qui bouche carrément le canal entre les deux stations, là où passent les trains. On a ce genre de solutions à mettre en place. Et je pense qu'on se quittera sur cette note plus réaliste et moins zombie, mais il y a une autre menace qui est beaucoup plus réaliste, c'est que le climat est en train de changer. Pas la météo, je le rappelle pour les climato-sceptiques, la météo et le climat, c'est pas du tout la même chose. Renseignez-vous avant des climato-sceptiques, s'il vous plaît, hein, faites un effort. Mais le climat est en train de changer, la température monte, les océans vont monter. Donc des villes côtières comme New York vont à terme, d'ici 10, 20, 30 ans, se retrouver sous 6 mètres de flotte. Vous croyez qu'il va se passer quoi quand on aura 20 millions de personnes à déplacer d'un coup? Donc ces scénarios-là, aujourd'hui, il faut les prendre en compte. Et il est important pour nous, même en tant qu'individu, citoyen ou entreprise, d'anticiper ces besoins-là. À titre personnel, moi je déménage l'année prochaine en province. Sachez que c'est une analyse que je fais pour l'endroit où je vais aller m'installer. Je regarde la montée des eaux, je regarde les inondations fréquentes, parce qu'on en a pas mal en France, les incendies, les sécheresses, etc., tous ces facteurs-là. Et je m'aperçois qu'autour de moi, quand je regarde les gens qui déménagent, il y en a plein qui se posent pas du tout la question. Alors que l'actualité, c'est factuel, je veux dire, c'est déjà du passé pour certains événements. On est en plein dedans, c'est en train de nous arriver. Et l'ignorer ne nous permettra pas d'éviter les effets.
Non, absolument. Puis c'est tout un problème de faire l'autruche. En cyber, on a ce problème-là. Les entreprises ne se préparent pas parce qu'ils pensent que ça n'arrivera pas. Mais quand on arrive dans des éléments beaucoup plus fondamentaux comme ceux-ci, effectivement, on est dans une place. Moi, ma maison est choisie dans une place qui n'est pas inondable. Point. Parce que j'ai choisi d'être dans une zone qui est pas comme ça. J'ai d'autres problèmes d'infiltration dans ma maison, mais l'inondation n'est pas un de ces problèmes-là. Donc, je sais que dans son horizon de 50 ans, jusqu'à temps que je ne le sois plus, j'aurais pas de problème d'inondation ou d'inondation permanente, parce que tu le mentionnes, c'est au niveau de l'augmentation du niveau de l'eau. Les villes comme Montréal, New York, qui sont situées sur le bord de l'eau avec des niveaux qui sont très, très, à l'heure actuelle, au niveau de l'eau, vont être progressivement amenées à disparaître. La Hollande est un pays qui est sous l'eau, qui est construit comme ça, qui ont fait quand même un miracle d'ingénierie de résister depuis tant de temps de vivre dans un pays qui est sous l'eau. Mais ça va devenir de plus en plus difficile pour eux parce que le niveau d'eau va être de plus en plus élevé, donc leur capacité à sortir l'eau du territoire va être atténuée. Et donc, à terme, vont
venir. Ce qui va engendrer une migration d'à peu près 30 millions de personnes dans le reste de l'Europe et qui sera la plus grosse migration européenne et qui déstabilisera entièrement tous les pays d'Europe et toute l'économie européenne. C'est pour ça que quand on a des nationalistes qui disent le problème vient d'Afrique, je dis non, je crois que vous ne comprenez pas la réalité de ce qui risque d'arriver très très rapidement. Et bouger 30 millions de personnes, ça a forcément un impact. Peu importe leur couleur de peau, peu importe d'où ils viennent, ça déstabilise forcément le monde. En plus du traumatisme humain, de devoir se reconstituer, de reconstruire, d'avoir une culture entière qui se déplace. Aujourd'hui, c'est les îles du Pacifique, certaines qui commencent à disparaître. C'est loin, c'est très peu de monde, donc on a la sensation que ça nous dérange pas. Mais comme tu l'as très bien donné, l'exemple de la Hollande, et c'est pas le seul, c'est un pays, la Hollande, qui est majoritairement sous le niveau de la mer. et qui va avoir le problème, c'est que le niveau de la mer risque de monter. Là, les estimations qu'on a, c'est plutôt de l'ordre de 4-5 mètres dans les 50 prochaines années à venir. C'est beaucoup. C'est énorme. Et faut comprendre que l'évolution d'une, le montée des océans, c'est pas juste que vous serez plus vite sur la plage. C'est qu'à chaque grande marée, alors, quand les marées bougent, ça va aller taper plus loin dans les côtes, dans des zones qui vont se retrouver d'un seul coup inondables. On aura des, ce qu'on appelle les vagues submersion, c'est-à-dire des moments où les vagues vont aller très loin dans les terres. Une terre qui n'a pas du tout été habituée à ça, qui va elle-même se dégrader plus vite. Donc les estimations qu'on a de pénétration des eaux dans les terres est sous-estimée aujourd'hui. Donc la maison près de la plage, c'est bien. La maison dans la plage, c'est un peu moins bien. La maison dans la mer, je suis désolé, c'est un sous-marin et à vous de voir si vous en avez envie. Hein.
Non, non, c'est ça, ça va être terrible. Puis c'est en sens ça, heureux que nos armées réfléchissent à ces scénarios-là parce que ceux-ci vont avoir des effets. Mais en même temps, comme individu, comme société, on doit aussi réfléchir à ça. Puis encore, en revenant sur le scénario zombie, c'est un exemple qui nous amène à un exemple complet, qui nous amène à anticiper des situations plus catastrophiques, autant au niveau individuel qu'aux entreprises que société.
On va garder ce point de vue-là. En croisant les doigts pour que les zombies n'arrivent pas, écoutez, sinon, a priori, nous, on sera prêts. Et est-ce que vous, vous l'êtes? Alors, venez nous le dire en commentaire. Venez voir si ce scénario-là vous convainc, si vous êtes prêts. Et est-ce que vous rejoignez le camp de Negan ou celui de Rick?
Oui, on va terminer là-dessus. Merci énormément. C'est une façon un peu plus ludique, heureusement, d'aborder les choses. Un glauque pour certains, parce qu'il y en a qui ne voient pas le plaisir ou le drôle de parler de zombies, mais ça nous amène dans un contexte de réflexion qui est très intéressant. Merci énormément.
Merci à toi.